Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mercredi 18 mai 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près.
Mise à jour demandée.
Ah, une mise à jour. Où est-ce que ça peut être? Je regarde. Ah, c'est dans le dossier Arctique. On avait fait un épisode il y a quelques mois avec Lucas Mediavilla. Bah, ça me semblait très complet, hein. L'énergie, le climat, c'est son domaine de prédilection. Je regarde le dossier. Ah oui, dedans, j'avais mis de côté une définition de l'Arctique.
C'est la zone qui, finalement, entoure le pôle Nord de la Terre. Et globalement, c'est la zone qui recoupe aussi les pays dont une partie de leur territoire est située au-dessus du 66e parallèle Nord. Et donc, tu as 8 pays qui se trouvent en Arctique.
Alors, on y avait aussi glissé une carte. Je vérifie. Ah bah, toute la région Arctique clignote. J'ai des notifications pour des points précis. Alors là, on est sur la côte sibérienne à près de 3000 km de Moscou. Et il est écrit... Problème technique ? Ok. Je vois une autre notification, toujours en Sibérie, cette fois-ci un peu plus dans les terres, et ça me signale changement de participants. Bon, sur ma carte, je vois aussi d'ailleurs que la Russie est d'une couleur, en bleu, et tout le reste est en vert. La Suède, le Danemark, la Finlande, ici l'Islande, le Canada, la Norvège, les États-Unis, bah ça aussi c'est nouveau.
Ah Xavier, je vois que tu as reçu la demande de mise à jour, je venais justement t'expliquer.
Bienvenue Clément, installe-toi, je t'écoute.
Merci. Tous ces changements, tu t'en doutes peut-être, ce sont les conséquences de la guerre en Ukraine, surtout que l'Arctique, c'est un enjeu majeur pour la Russie.
Oui, et ça, Lucas nous l'avait très bien expliqué.
C'est évidemment particulièrement important pour la Russie, hein. Ça représente la moitié du territoire et ils ont 2,5 millions d'habitants sur les 4 millions que compte la zone arctique. Donc évidemment, on sait que le système Poutine, il repose sur une logique extractrice, c'est-à-dire que tous les métaux, tout le pétrole et le gaz, ça contribue à générer finalement les recettes budgétaires de l'État russe. Et en fait, c'est le pays aujourd'hui qui est le plus présent sur ce territoire.
Bon, je pense que Lucas ne nous en voudra pas. Entre le gaz, le pétrole, les métaux rares, les tensions diplomatiques, il faut visiblement faire un épisode de mise à jour. Je te présente quand même, avant qu'on ne démarre notre actualisation de l'Arctique, Clément Dagnès, journaliste au service Monde de l'Express. Salut Clément.
Salut Xavier.
Je vais aussi garder l'armoire de la loupe ouverte près de moi, histoire qu'on ne répète pas ce qu'on a déjà dit dans notre épisode sur la bataille de l'Arctique.
Oui, et surtout j'ai besoin que tu fasses un peu plus de place dans cette armoire, okay. Parce que j'ai aussi pensé amener une interview que j'ai faite sur le sujet. Mm-hmm. J'ai parlé avec Florian Vidal, il est chercheur associé à l'Institut français des relations internationales et c'est un spécialiste de l'Arctique.
La Russie, avec le franchissement du Rubicon finalement d'envahir l'Ukraine, se retrouve aujourd'hui en Arctique isolé.
La Russie de plus en plus isolée en Arctique, on va donc expliquer pourquoi. Si je reprends la carte qu'on doit mettre à jour, il y a donc un premier point là qui clignote en Sibérie.
Ça, c'est le fameux projet Arctic LNG 2. Je suis sûr que Lucas t'en a parlé.
Alors oui, tout à fait. Je vais chercher l'extrait. Le voilà.
Arctic LNG 2, en fait, c'est un projet gazier à 21 milliards de dollars. L'objectif de ce projet, c'est de liquéfier un gaz qui est produit à l'embouchure d'un fleuve russe en Sibérie. Et en fait, ce projet-là, à son capital, tu as évidemment un acteur russe qui s'appelle Novatek. Mais à côté de ça, tu as un gros partenaire de ce projet qui s'appelle Total Energy, donc qui est français. Tu as les deux plus gros opérateurs pétroliers chinois et tu as aussi un consortium japonais. Donc, c'est assez cosmopolite.
Clément, quel est le problème avec ce projet gazier ?
Xavier, d'abord, ce projet, il est énorme. Il prévoit 3 usines de liquéfaction de gaz. Il y a un site qui est prêt à 95% sur les 3. Une usine sur les 3. Et cette usine, elle devait commencer à livrer du gaz naturel liquéfié, du GNL, en 2023. Et tout Arctic LNG 2 devait atteindre 3 années plus tard sa pleine capacité de production, près de 20 millions de tonnes par an. Mais là, le projet, il est presque à l'arrêt.
Et pourquoi ?
Alors le problème, c'est que les Russes ont besoin du savoir-faire et du matériel occidental. La Russie ne sait pas faire du GNL et le stocker. Donc l'embargo sur les investissements et les technologies ne permet pas à la Russie d'achever la construction de ses usines, même si ça reste à voir sur le premier site. Et en plus, la Russie n'a pas de technologie de remplacement à elle. Donc, elle ne peut pas sortir du chapeau, ce qui permettra de compenser l'absence des Occidentaux. Et les pays alternatifs, en tant qu'investisseurs, que pourraient être la Chine ou d'autres pays asiatiques, évidemment non plus. Donc, le projet se retrouve paralysé.
Un futur projet paralysé par la guerre en Ukraine, est-ce que c'est le seul ?
Alors, potentiellement non, puisqu'il y a un autre site gazier russe emblématique qu'on connaît bien, c'est Yamal. La différence, c'est que celui-là, c'est un projet déjà lancé, qui tourne bien, disons, techniquement. Il n'est pas touché de manière directe comme Arctic LNG 2. Mais le problème, c'est la maintenance. Parce que là aussi, ça tourne avec les technologies occidentales. Et quand vous avez une pièce défaillante, ben vous ne pouvez pas la remplacer. Donc, ça peut potentiellement mettre à l'arrêt toute la production de gaz naturel liquéfié en Russie. Et en plus, Yamal était relié à Nord Stream 2.
Ah oui, alors celui-là, on le connaît bien. On en a souvent parlé dans La Loupe et avec toi justement, Clément. Alors pour ceux qui n'auraient pas écouté ces épisodes, petit rappel, Nord Stream 2, c'était un grand projet de gazoduc pour relier la Russie à l'Allemagne.
Exactement. Et sur Nord Stream 2, Florian Vidal m'a expliqué le lien avec le projet Yamal.
Nord Stream 2 devait justement exporter ce gaz de Yamal vers l'Allemagne. Mais là aussi, c'est un problème puisque Nord Stream 2 est aujourd'hui un projet mort-né. En tout cas, intérêt par l'Allemagne et n'est pas prêt de voir le jour. Et donc, ça va avoir un coût, en fait, pour Gazprom d'avoir fait cet investissement pour aujourd'hui pour rien. Donc là, la Russie se trouve bloquée pour le gaz, car elle a misé sur une technologie, donc le GNL, pour lequel elle n'est pas autonome technologiquement. Et pour Gazprom, orienter des infrastructures tournées vers des pays acheteurs qui aujourd'hui se détournent de ce marché-là, du marché russe.
Et puis on peut ajouter que, de manière générale, Xavier, la Russie, qui misait beaucoup sur le gaz pour son économie, est dans une posture un peu compliquée. Parce qu'avec les sanctions, qui va investir dans tous ces projets gaziers ? On le voit pour Arctic LNG 2, par exemple, auquel Total, aujourd'hui, tourne le dos.
Les grands projets gaziers russes sont donc en danger, mais en Arctique, il n'y a pas que du gaz, et toutes les autres ambitions de la Russie dans la région risquent le coup de froid.
C'est un vrai Eldorado, on y trouve vraiment de tout, Xavier. On y trouve du pétrole, du gaz, du charbon, et aussi des métaux, de l'or, du nickel, du cuivre, du lithium, des terres rares.
Donc, on a déjà parlé du gaz, mais là, sur ma carte, il y a d'autres éléments qui clignotent et qu'il va falloir mettre à jour. On va commencer par le pétrole, Clément. Est-ce que là aussi, la Russie risque d'être bloquée par sa dépendance technologique ?
Alors non, là c'est un peu différent, Xavier, car les projets pétroliers peuvent continuer. Il est possible de faire sans les Occidentaux pour le pétrole. Les technologies sont plus simples. Le plus emblématique, je vais te le montrer. Tu vois sur la carte là, il s'appelle Vostok Oil.
Oui, je vois que c'est en Sibérie, près de la ville de Norilsk.
Oui, la fameuse cité du nickel sibérien. Le projet risque d'être ralenti par le fait que les Russes peinent à trouver preneur pour leur pétrole ces dernières semaines. À cela s'ajoute le fait que Moscou dépend souvent d'intermédiaires occidentaux, ceux qui trouvent les meilleurs acheteurs à Moscou, comme les Suisses Trafigura, Vitol et Glencore, qui se retirent justement du marché russe.
Alors, on a mis à jour les points liés à l'exploitation du pétrole et du gaz, mais j'en vois qui clignotent encore. Et si je me souviens bien de l'épisode précédent avec Lucas, je dirais que ça concerne les métaux rares.
Très clairement, l'Arctique, elle sera demain un moteur de la transition énergétique au niveau mondial. Tout ce que contiennent ces sous-sols en termes de cuivre, de lithium, de cobalt, de nickel, voire de terres rares ou encore de palladium, tout ça, ça sera nécessaire pour les produits stars de la transition.
Ces métaux rares dont parle Lucas, contrairement au gaz et au pétrole, ils ne sont pas encore dans les paquets de sanctions des Occidentaux contre la Russie, Xavier. Et Florian Vidal m'a expliqué que le problème est un peu différent.
Ce n'est pas un problème sur l'accès technologique. La mine ne requiert pas forcément de technologies très sophistiquées. La question, c'est des investissements. C'est qui peut venir investir dans le gisement de cuivre, de lithium, etc. Parce qu'il y a énormément de projets miniers qui ont été discutés. Et aujourd'hui, est-ce que les investisseurs, les oligarques russes, du fait des sanctions, de leur impossibilité d'accéder, du fait que certains de leurs comptes ont été gelés, etc., est-ce qu'ils ont encore la surface financière pour aller investir vers de nouveaux projets ?
La liste des projets compromis en Arctique commence à être assez longue, Clément. J'imagine que Moscou cherche d'autres partenaires pour prendre le relais.
Absolument. Il y a eu un discours de Poutine sur le sujet, Xavier, avec un sacré appel du pied, sans les nommer, à la Chine et l'Inde. Alors la Chine fait déjà partie du projet GNL à Yamal, par exemple. Mais au-delà de ça, la Chine n'envisage pas, pour l'instant, de venir aider la Russie sur d'autres projets. Elle n'achète pas de pétrole russe qui est bradé en ce moment, en tout cas ses raffineries publiques. Les Américains, d'ailleurs, les ont prévenus de sanctions pour ceux qui soutiendraient les Russes. Et chercher d'autres partenaires, ce n'est pas sans conséquences pour la Russie.
La Russie va sans doute développer une alternative, mais dans le même temps, donc, créer une nouvelle dépendance. Finalement, elle va passer de cette dépendance européenne vers une dépendance asiatique. Donc ça, c'est quand même le vrai fait. Et c'est un vrai fait en termes de projet arctique que la Russie souhaite. Parce que la Russie, dans son projet initial de l'Arctique, c'était finalement, on choisit ni l'un ni l'autre, on veut les deux. Là, on voit que le rideau tombe du côté, la partie occidentale, finalement, et il y a la partie orientale. Mais la conséquence de cette situation, la Russie se retrouve qu'avec une facette de ce grand projet.
Dans l'Arctique, la Russie est donc de plus en plus seule, d'un point de vue économique, et vous allez l'entendre, l'ambiance est aussi glaciale entre les chercheurs de la région.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Clément, je sens là que tu vas me parler du Conseil de l'Arctique.
Absolument.
Alors ça tombe bien, parce que Lucas avait très bien résumé ce dont il s'agit, et j'ai l'archive justement sous la main.
Finalement, l'Arctique, on pourrait comparer ça à un syndicat de copropriété, c'est-à-dire que voilà, les États décident du développement de leur zone qui appartient au territoire arctique et ils n'ont pas de compte à rendre à personne.
Les membres de ce syndicat de copropriété sont donc là sur la carte, hein ?
Oui, là, tu vois, il y a le Canada, les États-Unis, le Danemark, l'Islande...
La Suède, après, la Norvège, la Finlande et la Russie. Clément, est-ce que ce Conseil de l'Arctique se réunit toujours ?
Non. Parce que 7 des 8 pays membres du Conseil de l'Arctique ont annulé leur participation aux prochaines réunions. Évidemment, tous les pays membres, sauf la Russie, qui en ce moment préside le Conseil de l'Arctique pour 2 ans, jusque l'année prochaine. C'est la première fois dans l'histoire que le Conseil de l'Arctique arrête ses travaux. Ça n'était même pas arrivé en 2014, au moment de l'annexion de la Crimée. Avec l'invasion de l'Ukraine, les autres pays ont dit « on suspend, ce n'est plus possible ». Donc plus de coopération scientifique, plus d'échanges de données, plus de groupes de travail.
Cependant, des voix commencent à se faire entendre, indiquant qu'on ne peut pas maintenir une situation de gel permanent. Ce qu'on commence à percevoir du côté notamment des pays nordiques, finalement, on doit continuer nos activités, mais sans la Russie. Donc aujourd'hui, c'est un peu la tendance de ces derniers jours, c'est que ce soit du côté norvégien ou même américain, c'est finalement, nous avons des institutions qui a fonctionné jusqu'à présent, qui travaillent sur des sujets assez concrets en Arctique, sur la question du changement climatique, la question évidemment de la préservation de la biodiversité, etc. L'idée, c'est de maintenir les liens en fait entre la communauté de chercheurs. Et donc ça, on doit continuer, mais sans la Russie.
Pour les chercheurs, la coopération pourrait donc reprendre, on l'a compris, en excluant Moscou. Dans l'épisode précédent sur l'Arctique, Lucas nous expliquait que ce conseil était centré sur les questions scientifiques citées par Florian Vidal. Et il y a un sujet particulier sur lequel il n'intervient pas, c'est la sécurité. Clément, est-ce que depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a eu de nouvelles manœuvres militaires dans la région ?
En fait, pas vraiment, pas plus qu'avant la guerre. Déjà, parce que les forces russes, elles sont mobilisées ailleurs. Mais il y a eu un événement intéressant. Les Norvégiens, dans le cadre de leur appartenance à l'OTAN, organisent régulièrement des exercices dans la région. Et il y en a un qui était prévu depuis 2020, qui a eu lieu en mars-avril. Il n'a pas été reporté malgré le conflit. Et on note néanmoins une petite tension, parce que les Russes sont généralement invités à ces exercices comme observateurs. Là, ils n'étaient pas présents. Et dans le même temps, la diplomatie russe a fait savoir qu'elle se disait préoccupée par cette présence accrue de l'OTAN en Arctique depuis le début de la guerre en Ukraine. Et si l'Alliance Atlantique poursuit ses activités dans cette zone, elle a prévenu qu'il pourrait y avoir, je cite, « des incidents involontaires ». Une menace voilée, d'une certaine façon.
Ok, dernière mise à jour de notre carte de l'Arctique. Je vois qu'il y a deux pays qui ont changé de couleur, la Finlande et la Suède. Ça, c'est parce que les deux souhaitent rejoindre l'OTAN.
C'est une conséquence de l'invasion russe en Ukraine. La Finlande et la Suède annoncent être officiellement candidats pour faire partie de l'OTAN. Historiquement, ces pays européens sont toujours restés neutres. Moscou juge que cette adhésion à l'alliance politico-militaire transatlantique est une erreur.
Clément, tu as demandé à Florian Vidal si ça pouvait avoir une influence sur la situation entre la Russie et les autres États dans l'Arctique. Voici sa réponse.
Ça va changer évidemment le paradigme sécuritaire de la région de l'Arctique. Et si vous voulez, si devaient adhérer les Finlandais et les Suédois à l'OTAN, on va se retrouver dans une organisation du Conseil de l'Arctique 7+1, c'est-à-dire 7 pays de l'OTAN face à la Russie. Le Conseil de l'Arctique n'a pas vocation à traiter, évidemment, les questions militaires. Ce n'est pas dans ses dispositifs. Mais de facto, il y aura forcément en toile de fond cette opposition, en fait. Et là, c'est une grande inconnue en termes de stabilité sur la sécurité de la région.
Oui, il y a plusieurs questions désormais. Est-ce que ce dialogue va reprendre ? Est-ce que la coopération va reprendre ? Sous quelle forme ? Avec quelle ambiance ? Pour le moment, sans mauvais jeu de mots, le dégel de la situation semble très difficile.
On s'arrête donc sur ce jeu de mots. Gaz, pétrole, métaux rares, diplomatie. La mise à jour est terminée. Merci Clément.
À bientôt Xavier.
Clément Dagnès du service Monde de l'Express. Tous tes articles et ceux des journalistes de la rédaction sont à retrouver sur l'express.fr. Profitez-en, en ce moment, l'abonnement numérique ne coûte que 99 centimes pour 3 mois. Et pour écouter tous les matins dès 6h un nouvel épisode de La Loupe, pensez à nous suivre sur Apple Podcasts, Spotify ou Castbox par exemple. Vous pouvez y laisser des étoiles et des commentaires. Désormais, La Loupe, c'est aussi une newsletter chaque semaine. Le lien d'inscription est à retrouver dans le descriptif de ce podcast. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Jules Croix, Margot Lanuzel et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.